liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 21 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, le sommaire.
Alors, petit sommaire, petits articles. Donc, on va vous parler de peer-to-peer, on va vous parler A2P, Java, brevet logiciel, la guerre des brevets d'une manière plus globale, le post-PC, les évolutions qui vont vers la simplicité et vers l'ouverture. Et puis finalement, on va discuter un petit peu de la publication de la recherche sur Wikipédia et les modèles Wikipédia.
Premier article, ZDNet.fr, le P2P n'aurait plus la cote en France grâce à Adopi, point d'interrogation, un article de Gwenaël Pépin. Donc cet article fait référence à une étude menée par des économistes de l'université de Rennes 1 sur les baisses de fréquentation du peer-to-peer au niveau du partage de fichiers sur internet, etc. Donc bien sûr, Adopi dit que c'est grâce à eux que la surveillance apporte ses fruits. L'article cite toute une série de chiffres, d'études, etc. Sachant que le P2P, selon eux, a baissé de 50%. C'est des chiffres qu'ils ont obtenus en allant voir des internautes bretons, hein, 2000 d'entre eux. Mais leur conclusion, c'est que c'est pas tant Adopi qui a fait changer les comportements. Les comportements ont changé, ils n'ont pas nécessairement arrêté de pirater, ils sont plutôt allés sur des systèmes où ils ne sont pas fliqués, comme dans le P2P.
Ou alors ils vont aussi utiliser du streaming ou du téléchargement direct. Mega Upload a fait un scandale justement parce que c'était très utilisé. Donc penser que le peer-to-peer est terminé, c'est peut-être juste un arbre qui cache la forêt. L'autre truc que moi j'aime bien rajouter, c'est que le peer-to-peer est une façon très efficace de partager des fichiers, des gros fichiers notamment, parce qu'ils profitent du fait que chacun on s'entraide les uns les autres, alors que le streaming et le téléchargement direct n'est pas efficace du tout et coûte beaucoup plus cher aux fournisseurs d'accès parce que on occupe les bandes passantes. Donc globalement, ça leur coûte beaucoup plus cher de passer sur ces modèles-là, mais bon, il faut croire que ça se voit moins pour eux, donc ils préfèrent.
Écran, Pierre Lescure, des intérêts en question, un article de Sofian Fanin.
Eh bien alors là, ça c'est la grosse nouvelle de la semaine. Après la nomination du gouvernement, on a une nomination d'un grand ponte, d'un grand dirigeant. Moi je parle et je reprends ce que dit Philippe Aigrin là-dessus, où il explique que c'est un membre de l'oligarchie gouvernante qui a été mis en place pour remettre un petit peu de l'ordre dans les affaires de A2P. Donc l'idée c'est que de la même manière qu'Oliven à une autre époque, il va pondre un rapport, il va réfléchir, il va faire venir plein de gens de manière particulièrement impartiale, n'est-ce pas? Et on va voir ce qui va ressortir derrière, soi-disant pour refaire une exception culturelle phase 2.
On a une petite impression déjà vue, en effet, l'article rappelle également Patrick Zelnik, qui était patron de la maison de disques Naïve, qui avait mené la rédaction du rapport Création et Internet. On a changé de bord au niveau politique, mais manifestement les méthodes restent les mêmes. On prend des gens qui ont des tas d'intérêts, et l'article va regarder ce que fait Pierre Lescure élément par élément. Donc il y a des trucs qu'on peut dire, c'est pas si important que ça, notamment sa présence au conseil de surveillance de Lagardère, par exemple, hein, qui s'occupe d'Hachette. Il y a des trucs vachement plus inquiétant comme Nagra Kudelski qui est donc un groupe suisse et qui donc intervient sur des systèmes de DRM, de surveillance, enfin vraiment pile sur le sujet. Il y a une petite citation de Philippe Aigrin que je trouve assez lapidaire et qui est pas mal du tout. Cela signifie que la section politique de l'oligarchie gouvernante n'a vraiment rien compris aux conditions élémentaires de la restauration de la dignité du politique. Ça fouette méchant.
Oui, ça fouette, mais bon, il va peut-être amener l'esprit canal. Hein. Sa nomination a été reprise sur PC Impact sous ce titre-là. Donc moi, j'ai un petit peu mal au cœur. Après, on peut toujours espérer. Hein. Peut-être que cet homme va se révéler particulièrement impartial et va justement sortir des décisions vraiment intéressantes. Mais c'est vrai que son parcours, là, ça pue le conflit d'intérêts, mais à plein nez. Et puis surtout, il va défendre les entreprises desquelles il vient. C'est le représentant des entreprises. Qu'est-ce qu'il vient faire là pour définir des lois qui vont toucher les citoyens? Je veux dire, d'où c'est des entreprises qui doivent définir ce que nous on fait avec nos droits et avec nos libertés.
Alors il a annoncé quand même qu'il allait quitter certains de ses mandats, il n'y a plus conflit d'intérêts.
Ouais, c'est vrai que c'est super, non, n'est-ce pas? Non, en plus des conflits d'intérêts comme ça, il a dû en toucher pas mal parce que les jetons de présence, ça rapporte bien. Donc là, moi je me dis, le nommer lui, c'est comme nommer Pascal Nègre ou d'autres pontes, hein, c'est des gens qui vont taper sur la société civile, a priori. Mais effectivement, hein, on peut toujours avoir cet espoir que finalement, il va faire quelque chose d'assez propre. On peut espérer, mais c'est vrai que c'est mal barré.
Voilà, t'avais cette formule que je trouve géniale, hein, c'est un peu comme chat perché, c'est-à-dire qu'un coup il est dedans, il sort, il fait chat perché, vous pouvez plus rien me reprocher, j'y suis plus. Enfin bon, en tout cas on les surveillera de près, puis on va voir ce que ça donne. Silicone.fr, Java sous Android, Google l'emporte face à Oracle. Un article de Ariane Becky. Donc enfin, la fin d'un feuilleton dans la guerre des brevets. J'ose à peine y croire, j'ai la larme à l'œil. Enfin débarrassé.
Oui, c'est moche parce que la semaine dernière, on avait encore un article qui parlait de ce sujet-là et t'avais dit que t'en avais marre et que tu voulais plus en parler. Eh ben non, parce que là, bah, c'est le soi-disant le point final. Donc il y a depuis longtemps, depuis 2 ans, un jugement qui est en cours, qui prend entre Oracle et Google. Donc c'est des grosses sociétés, hein, c'est parmi les plus grosses du monde, donc qui rapporte énormément à leur successeur. Donc là, Oracle avait attaqué Google en justice et Oracle a été débouté. Les brevets ne sont pas en frein de la manière qu'ils voulaient en profiter. Donc ils avaient attaqué en demandant des milliards de dollars à l'autre bout parce que bah, Google, c'est Android, Google, c'est des parts de marché qui sont phénoménales. On va en parler un peu plus loin. Et là, bah, le juge, qui a l'air d'être un gars très bien, il s'appelle William Alsup et il a révélé que lors des audiences, qu'il était programmeur à temps perdu. Et justement, c'est assez amusant parce qu'il a envoyé chier Oracle en disant mais attendez, fichez de moi, même moi j'aurais pu le coder en quelques minutes. Donc Oracle a voulu défendre des choses qui étaient un peu indéfendables. Donc là c'est une porte ouverte, c'est un second souffle, voilà, on sort de ça. C'est un petit peu comme à la sortie de toute l'affaire avec IBM qui était soi-disant avait enfreint des droits d'auteur de SEO. Donc là aussi il y avait des milliards qui étaient en jeu, c'était terrible, et quand on était sorti ça fait plaisir. Et en plus de ça, ça veut dire que maintenant quand on ressort de tout ça, on est garanti qu'on fait des choses qui sont légales. Donc Android sort plus fort.
Voilà, bah espérons que ça se passe comme ça pour les autres affaires. En tout cas, c'est une belle démonstration qu'ils ont mis des millions jetés par la fenêtre et que bah, tout le mouvement d'Oracle, qui est pas mal attaqué comme étant une attaque contre le logiciel libre suite au rachat de Sun, hein, bah, ça montre que bah, leur stratégie de verrouillage et d'enfermement, bah, ça marche pas. Ils se sont cassés les dents sur OpenOffice. Là, ils se cassent les dents sur ce truc de Java, mais je crois qu'ils ont 2 trucs en cours quand même, on va voir. Mais en tout cas, c'est bah, plutôt engageant, ça montre que bah, le logiciel libre, ça marche. Indexel.net, périphérique mobile, la guerre des brevets bat son plein, par Marie Varanda.
Alors, on continue. Et oui, ça va pas forcément te faire plaisir, mais là, on va voir un peu plus la ligne de front et ce qui se déroule globalement, parce qu'on en parle depuis longtemps. C'est une guerre mondiale entre entreprises qui est en cours et qui utilise les brevets logiciels pour se battre.
Voilà, et là, on a un article bah, qui fait une petite tour d'horizon, un article assez court, assez bref, mais qui refait le point sur les différentes affaires. Donc la question d'Android, on vient d'en parler, mais également Samsung qui se bat avec Apple partout sur la planète sur des questions de design, enfin en gros ils prennent toutes les armes qu'ils ont, c'est pas que du brevet, c'est en fonction des législations locales, ils regardent ce qui est le plus efficace. Samsung et Apple essayent de s'attaquer au premier qui tapera l'autre dans différents pays, avec des conséquences type interdiction de vente de matériel en Allemagne ou des choses comme ça.
Sachant que justement il y a des juges qui ont en marre un petit peu et qui ont dit voilà, il y a certains de ces PDG, vous venez là et puis vous discutez entre vous. Je crois que c'est justement entre Samsung et Apple, mais bon, ça donne rien, faut pas rêver, la guerre continue de plus belle.
01net, le poste PC, ère de progrès ou restriction, un article de Pierre Fontaine.
Donc justement, ben, on peut comprendre un peu mieux ce qui se déroule, parce que là, on parle de l'informatique d'une manière globale, de son évolution, et on a un bel article qui a une belle progression, et qui part justement de ce monde où on avait des ordinateurs qui étaient ouverts, qu'on pouvait mettre à jour, qu'on pouvait changer, qu'on pouvait améliorer, et surtout, on pouvait les étudier, et on arrive vers les choix d'aujourd'hui, et la belle ergonomie, les beaux logiciels, les beaux ordinateurs, mais où tout est renfermé, tout est fermé, tout est choisi pour nous, au nom de la sécurité, au nom de la simplicité, mais bon, bah, c'est un enfermement, même si c'est dans une cage dorée.
Alors l'article est effectivement vachement bien, parce qu'il aborde cette question de la fin du PC classique qu'on connaît, enfin en tout cas son ralentissement, et l'explosion des tablettes, téléphones, etc. Donc de toutes ces solutions, on pourrait mettre aussi les consoles de jeux dedans, donc de toutes ces solutions informatiques, intégré et effectivement verrouillé. La très bonne chose, c'est que ça permet de montrer en quoi il y a une vraie évolution à la fois dans les usages et sur le matériel, mais également toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau des libertés informatiques et du contrôle, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que dans le logiciel libre, on a, et notamment l'April, on a un danger hein, qui est ce qu'on appelle l'informatique de confiance. En tout cas, ce que nous on appelle l'informatique déloyale et ce qu'eux appellent l'informatique de confiance, hein, qui était un consortium visant justement à faire des systèmes fermés, verrouillés, avec toujours ce prétexte de la sécurité. Et donc bah là, ils font un bon tour d'horizon qui fait le lien entre les intérêts du logiciel libre, des 4 libertés du logiciel libre, et bah, tous ces matériels récents, très branchés, etc. Et ils offrent à la fin une alternative.
Oui, hein, après le nuage noir du cloud computing, l'alternative c'est Boot to Gecko et autres briques qui viennent globalement de Mozilla et les gens qui font Firefox, hein, donc des gens très bien. Justement, il y a une vidéo qui montre un petit peu ce qu'ils sont en train de produire pour les téléphones portables, des capacités voilà, de rajouter une sorte de surcouche, Boot2Gecko, et cette surcouche, ça utilise le web de manière native, ça fait du HTML5, c'est très propre, c'est très fluide, notamment avec, bah, avec les, tous les téléphones portables qu'on a aujourd'hui qui sont très rapides, sont en fait des mini PC. Et là, eh bien, on a une petite vidéo qui donne un peu d'espoir, qui donne un peu de souffle. Donc les gens de Mozilla, on peut les applaudir, ils font des efforts phénoménaux et ils sont très inventifs, très ingénieux. Donc c'est là-dessus qu'on a une porte de sortie, aujourd'hui en tout cas. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont emboîter le pas. Et surtout qu'eux vont continuer et vont avoir un gros succès. Ça devrait continuer dans ce sens-là en tout cas, parce qu'ils sont vraiment très bien.
Alors ils partent de zéro, c'est, enfin, en tout cas en termes de marché. On sait comment Microsoft avec Windows Phone 7 s'est mangé le mur en dépit de son alliance avec Nokia. Donc là, ils prennent un biais différent, donc on peut espérer que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça va être difficile, hein, je pense, parce qu'ils partent face à des grosses entreprises qui ont des moyens de pub énormes. Et ils partent alors qu'ils sont déjà bien installés en face.
Alors ceci dit, peut-être qu'on peut... On peut imaginer une stratégie, parce qu'en fait là ils annoncent Boot2Gecko pour plutôt vers la fin de l'année, si j'ai bien compris dans l'article. Peut-être que là ils sont en train de créer un petit peu d'envie, de désir, d'ouverture et d'attirer des développeurs potentiels pour venir travailler là-dessus. Si vous avez envie, vous, de vous former, d'évoluer, de faire de la documentation, de la traduction, on sait jamais, hein, ben, n'hésitez pas à aller voir Mozilla. Les gens de Mozilla sont très ouverts, ils ont des bureaux un peu partout et ils sont vraiment, vraiment pas mal et ils ont besoin d'aide.
Écran Wikipédia au secours de la recherche, point d'interrogation, par Émilie Massemain. Ça touche très très loin le logiciel libre, mais dans les principes même du logiciel libre, il y a la question du partage du savoir, et là on va parler de publications scientifiques. Alors les gens qui sont un petit peu dans le truc, c'est une idée qui tourne depuis quelques années, où on sait que le monde de la publication scientifique est devenu très propriétaire, et qu'il est en fait entre les mains d'éditeurs de publications scientifiques, hein, puisque comme on sait, dans le monde scientifique, il faut publier, c'est-à-dire faire connaître ses recherches. Donc on voit bien que le logiciel libre s'est largement inspiré de ce monde-là, sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de publications internationales très réputées, où il faut payer très cher pour pouvoir publier dedans, payer très cher pour pouvoir avoir la publication chez soi, et où en plus de ça, bah, pour rentrer dedans, il faut passer un comité de lecture, et donc il y a des effets un peu de recherche à la mode, et des trucs qui sont intéressants, d'autres pas, etc.
Sans oublier qu'en plus, quand on a publié un article, bah, l'article, on n'a pas forcément le droit de le reprendre de son côté sur son site, sur le site de son labo de recherche, parce qu'il est dans le journal, et le journal a des droits d'exclusivité.
Voilà, donc les Britanniques, au niveau national, hein, donc le gouvernement britannique s'est dit que ça commençait peut-être à bien faire, c'est une idée qui tourne depuis longtemps, mais personne n'a osé le faire, ou en tout cas ça s'est fait mais de façon plus ou moins organisée, etc. Là c'est le gouvernement britannique qui dit ben, on va peut-être arrêter les conneries et se faire un système par internet, système national officiel de publication scientifique. Donc ça pose plein de soucis, notamment des questions d'interopérabilité qu'on connaît bien dans le logiciel libre, à savoir à partir du moment où je publie un article, dans quel format, est-ce que tout le monde pourra le lire, est-ce qu'il sera pérenne dans le temps, parce que si on veut relire une publication dans 30 ans, est-ce qu'on va la retrouver, est-ce qu'on saura encore la lire, etc. On est dans le monde scientifique, hein. Le savoir, il est là pour durer quand même un certain temps. Et donc, à toute une série d'informations, et du coup, ils sont allés demander l'aide de Jimmy Wales, donc le fondateur de Wikipédia, qui est un entrepreneur, hein, mais en tout cas, c'est lui qui avait posé ça. Et donc, en allant lui demander son aide pour voir comment il pourrait mettre ce truc en place.
Alors, moi, je connais pas encore bien les détails. J'avoue qu'on avait déjà regardé, et notamment, il y avait Harvard la semaine dernière qui avait annoncé que eux aussi, ça commençait à bien faire, et surtout, ça commençait à bien coûter, parce que ça leur coûte des millions de dollars chaque année pour payer les accès aux revues. Et donc, eux aussi sont en train de creuser sur des accès libres, la possibilité pour les auteurs et les scientifiques de publier sur d'autres mécanismes. Donc là, que le pays lui-même, la Grande-Bretagne, se mette à faire ça et se tourne vers des logiciels libres comme Wikipédia, bah alors là, bravo, on peut qu'applaudir, et espérer que tout le monde va emboîter le pas là-dessus. Au minimum, alors ça fait un moment qu'on en parle, mais ça me paraît le minimum du minimum, toutes les choses qui sont payées par le denier public, les recherches qui viennent des universités, qui viennent des institutions, devraient être dans le domaine public, ou quelque chose qui s'en approche, bah, le logiciel libre.
Ok, ce sera la conclusion de cette revue de presse. Bravo Manu, salut, à la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine, Divergence.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.